La première séance de ce cycle Métamorphose de la cuisine a porté sur cet objet curieux qu'est la gastronomie. Ce mode de discours qui prétend nous dire la norme du manger ou du bien manger. Mais la cuisine, nous le savons tous, nous le vivons chaque jour, ne se réduit pas à la gastronomie, ni à l'art idéal de la manière de se nourrir luxueusement. Et cette fois, c'est davantage de cuisine et même d'alimentation que je parlerai. Et comme mes titres sont toujours un peu mensongers, notamment parce que je les ai définis très à l'avance, avant d'entamer les recherches que j'expose ici, je ne parlerai pas seulement de manger en 1900, mais de manger à travers tout le 19e siècle, disons de Bonaparte à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc une période assez longue, sous ces deux signes, sous ces deux noms, symbolisant peut-être chacun un monde, plus encore qu'une personne, celui de Jean Jaurès et celui de Marcel Proust. Oui, malgré ce beau tableau de Berthe Morisot, la cuisine n'est pas seulement l'apanage des classes les plus favorisées, elle ne se fait pas toujours autour de belles tables et de jardins charmants. La cuisine, c'est aussi l'art tout simple et parfois difficile, parfois douloureux, de manger jour après jour dans les milieux les plus variés. Alors l'alimentation paysanne n'a pas tellement varié finalement entre l'époque peinte par Bruegel, celle de ces heureux moissonneurs, et la fin du XVIIIe siècle. Pendant longtemps, une alimentation à base essentielle de céréales souvent broyées, de soupe et de pain. On retrouve le pain qui trône dans quelques tableaux des frères Lenain, peignant sur un mode quelque peu symbolisé, allégorisé, la vie des paysans du XVIIe siècle. Mais c'est vers la fin du XVIIIe siècle qu'on va trouver avec Rétif de la Bretonne, une sorte de personnage transclasse avant la lettre, venu d'un milieu très humble et qui entrera dans les milieux littéraires parisiens, mais même s'il sera toujours un peu un vagabond des lettres, c'est chez Rétif de la Bretonne que je vais commencer, que je vais offrir ma première citation avec une description de nourriture paysanne. C'est donc un extrait du livre « L'école des pères » et donc ça décrit davantage l'enfance de Rétif ou même la génération de ses parents. « Je vais vous dire un mot de notre nourriture, c'est-à-dire de la manière de vivre du paysan aisé. Pour ceux qui ne le sont pas, du pain d'orge ou de seigle, une soupe à l'huile de noix, ou même de chènevis. L'huile de noix est aujourd'hui une huile raffinée, elle paraît à l'époque être une huile tout à fait quelconque. Une soupe à l'huile de noix ou même de chènevis, une mauvaise boisson, c'est-à-dire de l'eau passée sur du marc ou de l'eau pure, c'est tout ce qu'ils ont pour entretenir une vie condamnée à un travail rude et continuel. Mais chez notre maître, nous avions, avant de partir pour la charrue, une soupe au bouillon de porc salé, cuit avec des choux ou des pois ronds, jointe à un morceau de salé et une assiette de pois et de choux. Ou bien une soupe au beurre et à l'oignon, suivie d'une omelette ou d'œufs durs, ou d'herbage, ou de fromage blanc assez bon. En automne, dans le temps de la semaille des blés, et au printemps, on est à la charrue jusqu'à 4 ou 5 heures, on porte du pain, quelques noix, ou un morceau de fromage blanc pour le goûter, un demi-septier de vin, chacun dans une bouteille d'osier, avec une bouteille de terre pleine d'eau, parce que le grand terre altère beaucoup. » Voilà donc une description assez précise, avec la place évidemment prépondérante du pain, les salaisons en guise de viande, le chou que l'on retrouvera toujours à travers tout le 19e siècle et même au début du 20e siècle, le chou vert, un peu en désuétude aujourd'hui, et puis les légumes secs, les pois, les haricots. Mais le pain est vraiment l'élément essentiel, tellement essentiel, notamment en France, que le français est dit dans beaucoup de descriptions panivore. Ce pain, qui a différentes qualités, tend vers le blanc, même dans les milieux les plus simples. On a l'impression que les pains de seigle, les pains de céréales plus ou moins complètes, les pains de sarrasin, sont vraiment des pains pour les très pauvres, sont des pains de la déchéance, et donc il sera très difficile de faire accepter au milieu paysan un pain qui serait probablement plus nutritif. Le même phénomène se produit en Asie, on le sait, avec le riz. C'est le riz blanc et non pas le riz complet qui est l'aliment fondamental. Mais le pain que l'on garde longtemps, qui est du gros pain et qui sèche donc beaucoup, ce pain, ici, on voit un tableau de Millet nous montrant l'acte de préparation de ce pain, de cuisson, ce pain sera essentiellement utilisé comme base de la soupe. En fait, pain et soupe sont quasi synonymes. Prendre la soupe, c'est d'abord poser une très large tranche de pain et puis l'arroser de quelque chose, légumes, un peu de lard ou d'autres éléments. Ce pain, cette soupe, on les retrouvera aussi à peu près inchangés dans l'alimentation urbaine, dans l'alimentation ouvrière, comme nous le montre ce tableau un peu plus tardif. Évidemment, nous le savons tous, le rôle d'Antoine Parmentier a été décisif, non pas dans l'introduction de la pomme de terre en France et en Europe, comme on le croit souvent, mais dans l'acceptation de la pomme de terre comme un mets agréable, déclinable multiplement. La pomme de terre était connue, mais était essentiellement une nourriture pour les cochons, une nourriture de seconde catégorie. Un paysan s'enorgueillissait de ne pas en manger, et il a fallu les efforts inlassables de Parmentier, peut-être pour l'amélioration de l'espèce, mais surtout pour des idées de préparation. Évidemment, plus la pomme de terre crue, mais pas simplement la pomme de terre bouillie non plus, d'innombrables possibilités qui s'offrent pour transformer les panivores en pommes de terre-ivores, en patativores. Ce sera des efforts continus, mais il est intéressant de voir que Parmentier, qui a beaucoup publié, a également publié sur l'art du parfait boulanger, sur le pain. Donc il était véritablement préoccupé de questions d'alimentation, questions décisives dans tout le XVIIIe siècle, questions essentielles dans les mouvements de révolte. Ce sont très souvent des révoltes de la faim, et les révoltes de la faim sont très souvent liées au primat des céréales. Donc quand l'alimentation devient essentiellement céréalière, quand la viande et les légumes reculent, les crises céréalières sont potentiellement des crises révolutionnaires. On songe d'ailleurs à un moment à utiliser la pomme de terre pour faire du pain, mais ce sont des résultats décevants. Et donc, traité fondamental de Parmentier, l'examen chimique des pommes de terre, et d'autres ouvrages, y compris des ouvrages qui proposeront de multiples manières de l'accommoder. Et là, on quitte le terrain de la pure alimentation pour rejoindre celui de la cuisine. Voici encore un tableau de Millet qui semble accompagner pas à pas Parmentier, puisqu'après avoir peint la fabrication du pain, le voici qui nous montre la manière de planter ou de récolter les pommes de terre. Citation d'Antoine Parmentier. « Les pommes de terre comme mets se déguisent de mille manières différentes et perdent dans les assaisonnements le goût sauvage qu'on leur reproche. On les mange simplement cuites sous la cendre ou dans l'eau avec quelques grains de sel, un peu de beurre. Elles sont excellentes en salade, à l'étuvée, à la sauce aux blanches, aux roux, avec la morue et la merluche en friture à la maître d'hôtel et sous les gigots. On en farcit des dindons et des oies rôties, on en prépare des beignets, elles entrent dans les pâtés de légumes, dans les hachis. On en fait encore de petits pâtés, des gâteaux et des tartes qui imitent tellement les tartes d'amandes qu'elles en imposent aux plus grands connaisseurs.
Enfin, le cuisinier, dont l'art est aujourd'hui si délicat, si recherché et si important, trouvera dans les pommes de terre de quoi exercer son génie inventif et meurtrier. Pourquoi meurtrier ? Je ne sais trop, mais il est certain qu'on a là quasi le programme qu'un Joël Robuchon appliquera à la lettre dans son beau livre « Le meilleur et le plus simple de la pomme de terre », un livre parfaitement utilisable et qui vous donnera l'impression chaque semaine, sinon chaque jour, de varier les recettes. Chose amusante, dès les années 1840-1850, l'association du beefsteak et des frites, des beefsteaks et des pommes de terre, est attestée, notamment dans la cuisine des restaurants. C'est donc quelque chose qui se fixe très tôt. Le bœuf et la pomme de terre deviennent inséparables. Chose importante à noter aussi, la consommation de pommes de terre va doubler entre 1850 et 1900 et éclipser peu à peu, sinon faire disparaître bien sûr, la consommation de pain. Voici les plus célèbres pommes de terre, sans doute, pas les plus joyeuses de l'histoire de la peinture, celle du jeune Van Gogh, ces sombres mangeurs de pommes de terre. Et voici d'autres pommes de terre peintes par un peintre moins connu, moins illustre, Émile Friant. Et l'atmosphère est quelque peu plus agréable. Alors, ces pommes de terre, malgré tout, coexistent avec un peu de viande dans l'alimentation populaire, surtout du porc, surtout en salaison. Le salé est très important. On mange beaucoup plus salé pendant le 19e siècle que de nos jours. Quant aux légumes, les légumes frais sont peu nombreux. Et donc on en revient souvent au sarrasin du côté de la Bretagne, qui est une autre céréale et qui l'agrémente quelque peu, au pois, aux haricots et aux choux que j'évoquais précédemment. Une alimentation que nous pouvons juger donc très répétitive et probablement assez monotone, des plats fondés sur la longue cuisson, les marmites oubliées au bord du foyer. Mais cette époque, celle de Napoléon, somme toute, va avoir aussi un progrès important dans la diffusion des premières conserves, avec le rôle héroïque de ce Semmelweis de l'alimentation que fut Nicolas Appert. Nicolas Appert, inventeur malchanceux, puisque des polémiques énormes entoureront son invention et qu'il faudra finalement attendre une cinquantaine d'années et Pasteur et la pasteurisation pour lever les derniers obstacles idéologiques et la crainte que soulève la conserve. Mais somme toute, le procédé décrit par Appert dans son livre de 1810, « L'art de conserver », pendant plusieurs années, toutes les substances animales et végétales, le procédé est déjà très très au point. Et donc c'est amusant de voir qu'on ne part pas d'abord de boîtes, mais de bouteilles. Et ces bouteilles, stérilisées, soigneusement refermées, peuvent renfermer des denrées très appréciées des contemporains. Généralement, c'est salué, même par les gastronomes de l'époque, comme une manière d'avoir des légumes tout à fait hors de leur saison, et on dit notamment que les petits pois ont un goût absolument comparable aux petits pois frais. Nous ne sommes pas là pour les goûter, les conserves d'Appert n'ont pas été conservées, et bientôt, tandis que les polémiques se développent en France, les Anglais développent eux aussi de manière plus industrielle la conserve, cette fois dans des boîtes en fer blanc, dont l'inconvénient principal au départ est d'être extraordinairement difficile à ouvrir. Et c'est quand on réussira à trouver un bon système d'ouverture de la boîte de conserve qu'elle pourra se diffuser. Il n'empêche que, quels que soient les milieux, dans les restaurants chics comme dans les restaurants moyens, à la campagne comme à la ville, la conserve va donner peu à peu des possibilités de varier l'alimentation. Et voici les premières usines qui s'établissent, et notamment la conserve de la sardine et d'autres poissons, qui très tôt va se répandre. dans les grands changements de l'alimentation tout au long du XIXe siècle, même dès la fin du XVIIIe siècle, il ne faut pas oublier évidemment le phénomène de la canne à sucre et plus globalement tous les apports de la colonisation. On peut même dire que globalement, dans une époque d'expansion démographique forte, la colonisation est aussi une manière d'assurer au territoire national, au territoire hexagonal, une alimentation suffisante, de pallier les grandes crises céréalières en pillant les territoires conquis. On connaît, on sait aujourd'hui, et je vous renvoie aux études qu'il y a sur le sujet, la violence extraordinaire qui sévit à Saint-Domingue pendant l'exploitation, pour l'exploitation intensive de la canne à sucre. Mais ce sucre qui prend une place absolument considérable dans l'alimentation des Français, ce sucre est aussi lié à trois boissons coloniales qui se développent, le café, le thé et le chocolat. Le chocolat n'est pas d'abord utilisé comme une sucrerie, il faut tout un temps pour que le cacao soit élaboré de cette manière, mais dès le moment où ces trois boissons se répandent et se répandent dans des milieux assez divers, on sucre énormément, et donc le besoin de transporter du sucre est si considérable qu'il conduira bientôt à exploiter non seulement la canne à sucre, mais aussi la betterave. Ce sont donc des changements qui se font insidieusement, des changements du temps long, et qui vont affecter, bien sûr, non seulement l'alimentation de tous les jours, mais aussi la gastronomie. Alors, il y a des jours avec et des jours sans. Ici, dans ce tableau scandinave, on voit une foule rassemblée dans un café dans l'attente du poisson. Le poisson n'arrive pas, et donc vous sentez là une alimentation rythmée aussi par des arrivages plus ou moins fréquents. Tableau de Courbet, on est là dans un milieu de moyenne bourgeoisie ou d'artistes, et on sent qu'on est bien loin des grands menus décrits par Alexandre Dumas et quelques autres, qu'on est dans une alimentation sobre, plutôt répétitive et ressemblant, somme toute, à pas mal de lieux où l'on pourrait aujourd'hui se sustenter modestement. Et puis, il y a les jours de fête, les jours de banquet, de ripailles, de boissons, et comment, en voyant ce tableau d'Albert Fourier, un repas de noces à Yport, 1885, comment ne pas penser à des scènes nombreuses de noces, et particulièrement à celle, bien sûr antérieure d'une trentaine d'années, qui est dépeinte dans Madame Bovary de Flaubert. Dans tout le roman du 19e, on l'avait vu avec Balzac, on va le retrouver avec Zola, mais dans tout le roman du 19e siècle, on mange beaucoup. Et si l'on se soucie de passion amoureuse chez Flaubert, on n'oublie pas de s'y sustenter et de décrire, avec une précision que le roman antérieur ne connaissait pas, de décrire le repas. Je ne vous lis que le début de cette scène plus que fameuse, la noce qui se tient dans la ferme du père d'Emma, future Emma Bovary. C'était sous le hangar de la charreterie que la table était dressée. Il y avait dessus 4 aloyaux, 6 fricassés de poulet, du veau à la casserole, 3 gigots, et au milieu un joli cochon de lait rôti flanqué de 4 andouilles à l'oseille. Français encore, un peu de progrès pour être végétarien. Pour l'instant, le repas de noces est véritablement carnivore. Je reprends. Aux angles se dressait l'eau de vie dans des carafes. Le cidre doux en bouteille poussait sa mousse épaisse autour des bouchons et tous les verres d'avance avaient été remplis de vin jusqu'au bord. 3 boissons alcoolisées qui semblent cohabiter en bonne harmonie. De grands plats de crème jaune qui flottaient d'eux-mêmes au moindre choc de la table présentaient, dessinés sur leur surface unie, les chiffres des nouveaux époux en arabesque de noms pareils. On avait été chercher un pâtissier à Yvetot pour les tourtes et les nougats. Comme il débutait dans le pays, il avait soigné les choses et il apporta lui-même au dessert une pièce montée qui fit pousser des cris. La description de la pièce montée est très célèbre, je ne vais pas vous la lire. elle concerne moins directement notre propos, mais elle nous dit que dans un roman dit réaliste, dans un roman psychologique, on peut consacrer un paragraphe entier à décrire minutieusement une pièce montée. Et voici les détails de ce repas de noces de Fourier où nous voyons, si je ne me trompe, un poulet ou un chapon rôti. La peinture, tout autant que le roman, se délecte pendant le XIXe siècle et surtout la seconde moitié du XIXe siècle avec les impressionnistes et la peinture non plus d'atelier mais de plein air à dépeindre des repas. C'est même avec ce repas au canotier que Renoir entre officiellement dans l'impressionnisme. Vous remarquerez très souvent dans les tableaux représentant de la nourriture à cette époque qu'on privilégie les boissons et le dessert et qu'on choisit généralement comme moment la fin du repas, comme si, somme toute, avec les fruits, les gâteaux, les bouteilles, on arrivait à abstraire quelque peu l'acte culinaire et à le représenter dans une sorte de fantasme de retour à la nature, comme si la casserole posée sur la table, à quelques exceptions près, et plutôt dans des tableaux désignant les milieux les plus populaires, comme si la casserole posée sur la table était trop prosaïque pour être peinte. Renoir encore. Bouteille, fruits, à nouveau, canotier. Renoir, ici aussi, avec une serveuse d'un bouillon, sans doute du bouillon Chartier, représentation aussi de ces métiers de bouche qui prolifèrent, de ces métiers de service, avec ce tableau bien plus célèbre, infiniment célèbre, d'Édouard Manet, un café aux Folies Bergères, représentation d'une salle de restaurant animée où l'on boit, mais de la nourriture qui est servie, nous n'entrevoyons presque rien. Le restaurant populaire, le restaurant qui s'adresse à d'autres qu'aux gastronomes, nous le voyons ici à Asnières, peint par Van Gogh. Nous le retrouvons à Arles, dans une grande salle aux allures de cantine. On boit de l'eau. On boit du vin, mais certainement on se sustente d'un plat du jour, de deux ou trois plats du jour, sans guère de choix. Et voici celui qui est peut-être, dans cette époque-là et avant Proust, le romancier par excellence de la nourriture, Émile Zola, un Zola peint par Manet, donc on reste dans la continuité, dans cette famille et ce dialogue si essentiel dans les années 1850-1880 entre écrivain et peintre. Zola, avec l'entreprise titanesque des Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, veut proposer une encyclopédie de son temps, un grand roman scientifique et naturaliste, mais il porte un intérêt tout particulier aux variations des milieux et à l'intérieur de ces variations des milieux, à ce grand marqueur social que va être la nourriture. Et la nourriture est remarquablement et passionnément présente à travers toute l'œuvre de Zola. On pourrait lui consacrer une séance entière. Je ne ferai qu'effleurer ce sujet. Le troisième roman de la série porte ce titre évidemment éminemment caractéristique et puissant, Le ventre de Paris. Et Le ventre de Paris, c'est la manière pour Zola qui se met à écrire alors que le Second Empire s'achève. C'est une histoire qui est faite presque en direct. Il a vécu le Second Empire et il se met à l'écrire au moment même où le régime de Napoléon III s'effondre. Il comprend très vite qu'avec les halles bâties par Baltard au cœur de Paris, il y a un révélateur social, politique, charnel, particulièrement important. Ce sont des bâtiments évidemment considérables dont les amateurs d'architecture gardent jusqu'à ce jour la nostalgie et qu'aucun des projets bâtis à la place, canopée ou autre, ne parvient à faire oublier. On se souvient que les halles de Baltard ont été démolies autour de 1970 malgré quelques protestations, mais elles ont été pendant longtemps le ventre et le cœur de Paris, l'un des lieux les plus vivants de la ville. Et il est tout à fait fascinant de voir comment, fidèle à sa méthode, Zola a parcouru les lieux, dressé un plan du quartier, nommé toutes les rues, passé plusieurs nuits dans les halles pour suivre toutes les opérations. Et on a, vous le retrouverez sur le site Gallica, les notes de travail de Zola pour ce roman et pour d'autres. Et ici, une nuit aux halles qui s'ouvre par une description de l'arrivée des légumes. On va retrouver quelques-uns de ces légumes dans le tout début du roman. Vous voyez qu'il établit des listes de légumes, des plus connus aux plus rares, et puis des listes de poissons de mer, mais aussi de poissons d'eau douce, des listes de toutes les viandes, de toutes les volailles, de tous les gibiers. Et il y a là ce projet épique pour l'ensemble des Rougon-Macquart, mais encyclopédique aussi, qui va fixer un certain état de la cuisine et des possibilités culinaires au milieu du XIXe siècle. Alors, en faisant des recherches pour le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, je suis tombé sur un peintre dont j'avoue avoir tout ignoré, même si sans doute j'avais vu dans l'un ou l'autre musée de province des tableaux, mais des tableaux disséminés. Et quand on reconstitue, même sommairement, la carrière de Victor Gilbert, donc né en 1847, mort en 1933, mais très actif surtout dans les années 1870-1900. Quand on regarde ces tableaux, on est frappé par le réalisme quasi photographique, mais aussi par la qualité de la description qu'il nous donne. Un cinéaste qui voudrait, ce serait un peu cher, mais reconstituer les halles et y faire se dérouler quelques scènes, pourrait vraiment suivre très très en détail ici la partie des poissons, là celle des volailles et un peu de légumes, la boucherie est au fond. Vous voyez aussi, et c'est une scène très caractéristique du monde des halles, et on retrouve ça quand on voyage, notamment en Asie, comment le commerce de ces denrées se mêle à toutes sortes de petites gargotes, de petits restaurants où l'on mange sur le pouce. Description véritablement précise, non seulement de l'intérieur des halles, mais des abords, où on voit fixer, comme les impressionnistes ne l'ont pas fait, n'ont pas voulu le faire, ne se sont pas souciés de le faire, on voit fixer les gestes du travail, les lieux du travail, dans ce qui ne devait pas apparaître à l'époque comme très pittoresque et qui ne l'est pour nous qu'avec le recul, la nostalgie et la disparition de ce lieu. Marché aux légumes, parfois marché aux fleurs. Là, je pense qu'on est tout près de l'église Saint-Eustache, pas bien loin d'ici, et des scènes de marché qu'on pourrait retrouver aujourd'hui, et une certaine abondance de légumes, même si les choux, les poireaux, les oignons ont une présence peut-être plus forte que d'autres. Scène nocturne, c'est marché qui semble véritablement avoir fasciné Victor Gilbert et où l'on voit quelques bourgeoises s'aventurer. Ici, on est rue Mouffetard et il est amusant de voir cette charrette chargée de légumes, avant tout avec domination des choux, mais presque le même tableau, presque le même angle de vue, cette fois simplement pour l'achat d'une baguette. Et puis, toujours par le même Victor Gilbert, ce que peut être un repas dans la petite ou la moyenne bourgeoisie, sans doute dans la famille de Victor Gilbert lui-même, et la place à nouveau prédominante du pain sur la table. Les gestes du travail aussi, l'humilité, ce que les peintres souvent ne représentent pas, celle que les peintres, la plupart du temps, ne représentent pas, et nous nous retrouvons là, tout près de l'atmosphère décrite dans plusieurs des romans de Zola, décrite parfois avec moins de bienveillance que dans un tableau comme celui-ci. Voici brièvement l'ouverture du roman « Le ventre de Paris ». Au milieu du grand silence et dans le désert de l'avenue, les voitures de maraîchers montaient vers Paris. avec les chaos rythmés de leurs roues dont les échos battaient les façades des maisons, endormis aux deux bords, derrière les lignes confuses des ormes. Un tombereau de choux et un tombereau de pois au pont de Neuilly s'étaient joints aux 8 voitures de navets et de carottes qui descendaient de Nanterre. Et les chevaux allaient tout seuls, la tête basse, de leur allure continue et paresseuse que la montée ralentissait encore. En haut, sur la charge des légumes, allongés à plat ventre, couverts de leur limousine à petites raies noires et grises, les charretiers sommeillaient, les guides au poignet. Un bec de gaz, au sortir d'une nappe d'ombre, éclairait les clous d'un soulier, la manche bleue d'une blouse, le bout d'une casquette, entrevue dans cette floraison énorme des bouquets rouges, des carottes, des bouquets blancs, des navets, des verdures débordantes, des pois et des choux. Et sur la route, sur les routes voisines, en avant et en arrière, des ronflements lointains de charrois annonçaient les convois pareils, tout un arrivage traversant les ténèbres et le gros sommeil de 2 heures du matin, berçant la ville noire du bruit de cette nourriture qui passait. Du bruit de cette nourriture qui passait. C'est véritablement, je disais, l'épopée de la nourriture, l'épopée d'un monde, mais probablement la première fois dans l'histoire de la littérature, en tout cas de la littérature que je connais, qu'on prend une telle peine pour individualiser non seulement les aliments, mais la trajectoire, le travail qui va conduire à les manger. Dans un autre, dans le même roman, Le ventre de Paris, l'intrigue elle-même est extrêmement liée à une lutte des classes qui est devenue le combat des gras et des maigres, comme si le monde se divisait de cette façon. Et voici la description d'un des personnage qui tient un peu le juste milieu entre les gras et les maigres, celle que l'on nomme la belle Lisa, la charcutière. La belle Lisa, au seuil de la charcuterie, tenait toute la largeur de la porte. Jamais son linge n'avait eu une telle blancheur. Jamais sa chair reposée, sa face rose, ne s'était encadrée dans des bandeaux mieux lissés. Elle montrait un grand calme repu, une tranquillité énorme que rien ne troublait, pas même un sourire. C'était l'apaisement absolu, une félicité complète, sans secousse, sans vie, baignant dans l'air chaud. Son corsage tendu digérait encore le bonheur de la veille, ses mains potelées, perdues dans le tablier, ne se tendaient même pas pour prendre le bonheur de la journée, certaine qu'il viendrait à elle. Et à côté, l'étalage avait une félicité pareille. Il était guéri. Les langues fourrées s'allongeaient plus rouges et plus saines, les jambonneaux reprenaient leur bonne figure jaune. Les guirlandes de saucisses n'avaient plus cet air désespéré qui n'avrait connu. Un gros rire sonnait au fond dans la cuisine, accompagné d'un tintamarre réjouissant de casseroles. La charcuterie suait de nouveau la santé, une santé grasse. Le gras est un élément absolument décisif dans toutes les descriptions de Zola, légumes mis à part. Les bandes de lard entrevues, les moitiés de cochons pendus contre les marbres mettaient là des rondeurs de ventre, tout un triomphe du ventre, tandis que Lisa, immobile, avec sa carrure digne, donnait aux halles le bonjour matinal de ses grands yeux de forte mangeuse. Et nous sentons ici, une première fois, une composante absolument déterminante de la description culinaire au XIXe siècle, qui est son érotisation presque immédiate. Décrire ces jambons, décrire ces cochons, décrire cette abondance de victuailles, décrire ces joues roses, c'est immédiatement teinté de sensualité, les personnages, une sensualité qui, dans certains cas, sera poussée presque du côté de l'horreur, de l'excès, d'une sorte de débauche sale, noire, voire quelque peu méprisante, car il ne faut pas se leurrer complètement si Zola est attentif aux différences des milieux, aux différences de leur comportement, de leur sexualité, de leur alimentation, il n'est pas exempt d'une sorte de racisme de classe que nous trouverons notamment dans ce morceau d'anthologie que peut-être vous avez étudié autrefois au lycée, mais que je vais tout de même vous lire, ce morceau d'anthologie de l'Assommoir, non pas une scène de beuverie, mais un repas de fête, le festin de Gervaise, un repas immense où après le pot-au-feu et la blanquette, et des bouteilles de vin en abondance, arrive ce qui doit être le clou du festin, ce qu'on attend depuis longtemps, l'oie. Quand l'oie fut sur la table, énorme, dorée, ruisselante de jus, on ne l'attaqua pas tout de suite. C'était un étonnement, une surprise respectueuse qui avait coupé la voie à la société. On se la montrait avec des clignements d'yeux et des hochements de menton. Sacré matin, quelle dame, quelle cuisse et quel ventre! Elle ne s'est pas engraissée à lécher les murs, celle-là, dit Boche. Alors on entra dans des détails sur la bête. Gervaise précisa des faits. La bête était la plus belle pièce qu'elle eût trouvée chez le marchand de volailles du faubourg Poissonnière. Elle pesait 12,5 livres à la balance du charbonnier. On avait brûlé un boisseau de charbon pour la faire cuire et elle venait de rendre 3 bols de graisse. Virginie l'interrompit pour se vanter d'avoir vu la bête crue. On l'aurait mangée comme ça, disait-elle, tant la peau était fine et blanche, une peau de blonde, quoi. Tous les hommes riaient avec une gueulardise polissonne qui leur gonflait les lèvres. Cependant, Lorilleux et Madame Lorilleux pinçaient le nez suffoqué de voir une noix pareille sur la table de la Bamban. « Eh bien, voyons, on ne va pas la manger entière, » finit par dire la blanchisseuse. « Qui est-ce qui coupe ?»« Oh non, non, pas moi, c'est trop gros, ça me fait peur. »
C'est moi qui coupe un peu, la description est immense. Mais maintenant, nous sommes au cœur du repas.
Cependant, Clémence achevait son croupion, le suçait avec un gloussement des lèvres en se tordant de rire sur sa chaise à cause de Boche qui lui disait tout bas des indécences. Ah, nom de Dieu, oui, on s'en flanqua une bosse. Quand on y est, n'est-ce pas? Et si l'on ne se paie qu'un gueuleton par-ci, par-là, on serait joliment godiche de ne pas s'en fourrer jusqu'aux oreilles. Vrai, on voyait les bedons se gonfler à mesure, les dames étaient grosses, ils pétaient dans leur peau les sacrés goinfres. La bouche ouverte, le menton barbouillé de graisse, ils avaient des faces pareilles à des derrières et si rouges qu'on aurait dit des derrières de gens riches, crevant de prospérité.
Bon, véritable morceau d'anthologie, un Zola absolument déchaîné. L'Assommoir paraît d'abord en feuilleton. Le feuilleton crée d'ailleurs quelques difficultés. Certaines scènes sont considérées comme trop dures. Le feuilleton de La Curée, dont je vais parler dans un instant, avait été, lui, interrompu en raison de son extrême crudité. Et puis voilà, l'édition d'origine de ce qui fut un des plus gros succès de Zola, cet Assommoir. Mais si l'on peut, en entendant ou en lisant cette description, avoir le sentiment que le regard de Zola manque vraiment de bienveillance sur ce milieu de pauvres gens qui festoient, qui font l'abondance une fois, il ne faut pas s'y tromper. Le regard de Zola est presque aussi cruel sur le rapport à la nourriture des bien nourris, des gens riches. C'est comme si chez Zola, pourtant amateur de bonne chair et à mesure que ses romans marchaient mieux, se nourrissant lui-même de mieux en mieux, c'est comme si chez Zola, une forme de veulerie, de rapacité, était toujours liée à l'acte de se nourrir. Et j'en veux pour preuve, sur fond d'un tableau plus sage de Jean-Louis Forain, décrivant un buffet pas si éloigné, Roblonque mis à part, de ce que nous pourrions avoir aujourd'hui, vous allez voir comment, chez les riches, on se comporte dans une grande réception organisée chez les Saccard à l'occasion de la mi-carême. On ne sait si le carême était respecté, mais en tout cas, la mi-carême est honorée. Quand on ouvrit la porte de la salle à manger transformée en buffet, avec des dressoirs contre les murs et une large table, au milieu chargée de viande froide, ce fut une poussée, un écrasement. On se ruait sur les pâtisseries et les volailles truffées en s'enfonçant les coudes dans les côtes brutalement. C'était un pillage. Les mains se rencontraient au milieu des viandes et des laquais ne savaient à qui répondre au milieu de cette bande d'hommes comme il faut, dont les bras tendus exprimaient la seule crainte d'arriver trop tard et de trouver les plats vides. Toute ressemblance avec des vernissages et des réceptions serait purement fortuite.
Le préfet guettait un gigot. Il allongea la main au bon moment dans une éclaircie d'épaule et l'emporta tranquillement après s'être bourré les poches de petits pains. Et ces messieurs soupèrent sur le coin d'une jardinière au fond de la pièce. Ils ne retirèrent pas même leurs gants. Mettant les tranches toutes détachées du gigot dans leur pain, ils causaient la bouche pleine, écartant leur menton de leur gilet pour que le jus tombât sur le tapis. Et donc, description parfaite de goujaterie, de comportement avide et frénétique, comme de gens qui n'auraient pas mangé depuis une éternité. On va en voir des gens qui n'ont pas mangé depuis une éternité, mais donc ça doit tempérer quelque peu le jugement que pourrait susciter le passage lu précédemment de l'Assommoir. Vous le savez sans doute, le Second Empire décrit par Zola s'est mal terminé, s'est terminé dans ce qu'il appela lui-même la débâcle, et avec la débâcle et la défaite de la France en 1870, la débandade générale du régime, il y eut le siège de Paris. Le siège de Paris représente, à ce moment du XIXe siècle, après une période d'expansion sous Louis-Philippe, avec les chemins de fer, qui permettent à des marchandises de voyager, à l'alimentation d'être plus variée, après une autre période d'expansion pendant le Second Empire, un brusque retour à la réalité la plus dure, de longues files d'attente devant les boucheries, puis plus de files, car les boucheries sont vides, plus de files non plus devant les marchands de légumes, car les légumes n'arrivent pas et ne poussent guère à Paris. Alors, on ouvre en 1870 une boucherie, ou peut-être plusieurs, canine et féline, qui manifestement a de la moralité, puisque on propose l'achat d'animaux, mais on ne traite qu'avec les propriétaires, prix convenable. Donc si vous trouviez un chat errant, il ne fallait pas l'apporter, vous deviez pouvoir justifier que c'était bien votre chat, votre chien, que vous proposiez pour un usage nouveau et quelque peu inattendu. On est tout de même dans le quartier de la Villette, ce qui permet de rester cohérent avec les pratiques habituelles. Et puis le siège s'éternise et c'est le jardin des plantes, c'est un épisode célèbre, c'est le jardin des plantes qui en fait les frais et donc ce moment extraordinaire de l'abattage de l'éléphant. Je crois qu'il n'y a qu'un seul éléphant, on parle toujours de l'abattage de l'éléphant du jardin des plantes. Les troupes qui n'avaient pas pu contenir l'avancée prussienne se trouvent ici une victime plus facile. Et puis de nouveaux petits métiers s'improvisent, comme celui de dépeceur de rats. Et donc, c'est bien de cela qu'il s'agit, oui, les rats, qui eux n'ont pas déserté Paris, deviennent un aliment recherché. Pendant le siège de Paris, on n'est pas difficile, un interne des hôpitaux écrit, le jour de Noël 1870, « J'ai mangé de tout, cheval, mulet, chat, chien, rat, et j'ai trouvé le tout très bon. Je me promets de vous faire manger des salmis de rat d'eau excellents. » De rat d'eau. Et voici le menu du 99e jour du siège, servi donc dans un restaurant élégant. Alors il y a des choses banales, hein, les hors-d'œuvre, beurre, radis. Puis on passe à la tête d'âne farcie, les sardines, ça va, les potages purés de haricots rouges au crouton, puis consommé d'éléphant. L'éléphant a dû nourrir beaucoup de monde quand même à Paris. Parmi les entrées, le goujon frit, le chameau rôti à l'anglaise, le civet de kangourou, les côtes d'ours rôties sauce poivrade. Donc là, on retrouve Alexandre Dumas. Parmi les rots, cuisson de loup sauce chevreuil, le chat flanqué de rats, salade de cresson, la terrine d'antilope aux truffes, les cèpes à la bordelaise, on respire, les petits pois au beurre, ça va, le gâteau de riz aux confitures, le fromage de gruyère, et puis quelques vins, dans le second service, des vins qui semblent tout à fait à la hauteur, donc manifestement les caves parisiennes ne sont pas vides, du Latour Blanche 1861, du Château Palmer 1864, du Mouton Rothschild 1846, du Romain des Conti, un grand Porto. Donc, les boissons ne manquent pas, mais les vivres sont de nature assez variée. Heureusement, il y avait plusieurs choses sur la table et peut-être pouvait-on s'orienter prioritairement vers le cresson ou les petits pois. Après le siège de Paris, vient un autre épisode guère plus gastronomique, les quelques semaines de la Commune qui s'achèvent, comme on le sait, tragiquement par le bain de sang des Versaillais. Et la Commune, cet épisode tragique de l'histoire de France, cet épisode marquant de l'année terrible 1870-1871, va ouvrir pour nous par une parenthèse sur un autre récit culinaire, une histoire célèbre, le dîner de Babette, qui deviendra au cinéma le festin de Babette, un conte admirable de Karen Blixen, romancière danoise, plutôt anorexique, rongée par la syphilis que lui avait transmise dans sa jeunesse son mari et qui donc ne pouvait guère s'alimenter, mais qui a donné une des plus belles descriptions de repas qui soit, de festin, un des plus beaux éloges de la cuisine française, présenté par une nordique à un public d'abord nordique. Pourquoi le lien ? Parce que la cuisinière française qui va être accueillie par deux sœurs d'un protestantisme rigoriste, cette femme était une grande cuisinière française, on le découvrira sur le tard, qui s'est engagée dans la Commune de Paris, qui a été prise sur les barricades, menacée d'être fusillée comme tant d'autres, et qui donc va partir dans ce lieu bien peu fait pour la recevoir, où l'alimentation se réduit à quelques variantes de soupe et de morue séchée. Mais elle va tenter peu à peu d'améliorer l'ordinaire des deux dames qui l'ont accueillie, même si elle pense ne pas avoir besoin d'une cuisinière, puis l'ordinaire des villageois, jusqu'à se lancer, et c'est le cœur de l'intrigue de ce très beau film de Gabriel Axel, jusqu'à se lancer, après un événement miraculeux qui lui a apporté une fortune, des années après la Commune, jusqu'à se lancer dans la confection d'un festin extraordinaire, d'un festin à la française, comme ce qu'elle préparait avant les événements au café anglais. Alors, chose étonnante, elle est décrite comme une chef, une femme chef au café anglais, chose évidemment rarissime dans les cuisines les plus réputées du XIXe siècle, un peu moins rare aujourd'hui. Mais donc il y a vraiment l'association à la fois de cette cuisinière de luxe qui devient communarde, de cette exilée qui trouve refuge chez deux femmes qui se soucient de tout sauf de la nourriture et pour qui les repas peuvent tous se ressembler, et cette femme commande à Paris, grâce à son neveu, des victuailles nombreuses pour confectionner un repas inouï. Il s'agit de célébrer le 100e anniversaire de la naissance du Pasteur, le père des deux sœurs, mais cet homme ne portait lui non plus aucune attention à la nourriture, et la consternation règne dans le petit village à l'idée de ce qu'elle va préparer, de ce qui va se préparer. Je ne vous raconte pas tout, mais enfin, grosso modo, il y a disproportion, décalage complet entre les efforts inouïs que fait Babette pour préparer ce repas, toutes ces marchandises qu'elle fait venir, toute cette abondance, tous ces grands vins comme à Paris, et la froideur absolue, l'indifférence feinte ou réelle de ceux qui vont déguster ce repas unique, et notamment le plat d'anthologie qu'elle leur sert après une soupe de tortue, ce plat d'anthologie qui est l'écaille en sarcophage, et donc accompagné de vin admirable. Seul un des invités mesurera l'événement, mesurera la magie de ce qui s'est produit là, dans ce village reculé et perdu. Ce qui est très beau dans le festin de Babette et dans le conte de Blixen, tout comme dans le film qui en a été tiré, qui est assez fidèle, même si évidemment le film donne au repas et au mets une importance que la nouvelle ne pouvait pas avoir, car Karen Blixen n'écrit pas comme Zola, ne s'étend pas longuement sur les descriptions, c'est le concept qui l'intéresse. Mais ce qui est très très frappant et magnifique, c'est la description tout à la fin, quand Babette s'est ruinée pour ce repas, quand elle se retrouve dans le même état de dépendance que celui qui était le sien, c'est sa description d'elle-même comme artiste. Je suis une grande artiste. Et en tant qu'artiste, elle a pu tout flamber, elle a pu tout donner en un seul repas. C'était sa manière de sortir de l'alimentaire et d'entrer dans un art de la cuisine qu'on verra se développer dans les prochaines séances de ce cycle, mais un art de la cuisine auquel elle croit et sans doute auquel peu de gens à cette époque croyaient. Peu de cuisinières pouvaient à cette époque se définir non seulement comme artiste, mais grande artiste, se réalisant pleinement et quasi théologiquement à travers le don de ce repas. Bien évidemment, on sait aussi que le christianisme, qu'il soit catholique ou protestant, entretient des rapports puissants avec la nourriture, lui qui s'est achevé par un repas, la dernière scène, lui qui compte parmi les miracles de Jésus, la multiplication du pain et du vin. Une autre figure qui nous permet d'éclairer vers la fin du XIXe siècle ce que peut être chez un artiste, d'abord pauvre, puis plus cossu, Claude Monet, la relation à la nourriture. Un artiste n'est pas n'importe quel artiste, non seulement parce que c'est un peintre immense, mais parce que Monet, dès qu'il en a eu les moyens, et surtout avec sa seconde épouse, Alice, s'est véritablement passionné pour la nourriture, y a consacré des carnets, a noté de nombreuses recettes. Nous voyons ici un tableau de jeunesse, Monet en famille avec sa première épouse, et nous sentons que ce sont des années difficiles, que ce sont des années où la nourriture reste humble, modeste, et les menus probablement assez courts. Les années passent, et l'on voit déjà sur un tableau comme celui-ci que l'art de la table est passé par là, que les nappes se sont améliorées, que les fenêtres sont plus nombreuses et les repas plus riches. Il me semble bien voir dans l'assiette proposée à l'enfant des pommes de terre et du beefsteak à côté de ces œufs, de ce pain, de ces fruits que nous trouvons sur la table. Et répondant au tableau plus audacieux et plus polémique de Manet, Monet peint lui aussi un déjeuner sur l'herbe, un déjeuner, une sorte de pique-nique de luxe où la nourriture est plus présente que chez Manet. Nous voyons ici cette envie du plein air qui s'exprime chez les peintres, mais qui s'exprime aussi dans la bonne société pour ces repas. Et nous trouvons, il y a l'esquisse que je viens de montrer, qui est au musée Pouchkine, mais le tableau final n'a jamais été terminé, il n'en subsiste que des fragments, et il est frappant de voir à nouveau que c'est du pain, des gâteaux, de la nourriture et des fruits qui sont avant tout représentés, pas de poulet froid, pas de conserve bien sûr. Et les années passent, et les enfants grandissent, et les jardins grandissent, et la lumière est présente, le végétal l'est de plus en plus. Monet est un peintre des fruits et des légumes. Et bien sûr, avec Giverny, le jardin qu'il fait bâtir pour le peindre, la maison qu'il fait aménager, le vieux Monet, désormais célèbre dans le monde entier et richissime, lui dont la peinture a mis si longtemps à se faire accepter, peut laisser libre cours à son goût de la cuisine. Nous le voyons ici dans sa salle à manger. Il aimait manger de façon très ponctuelle. À midi moins deux, il était assis à sa table pour le déjeuner. À midi, il toussait. Il fallait que les plats arrivent, mais c'était pour la bonne cause, car s'il aimait bien manger, il voulait surtout profiter de la lumière de l'après-midi pour peindre en toute saison. Et la cuisine elle-même, elle se visite aujourd'hui à Giverny, est une cuisine de vaste dimension, parfaitement équipée, qui permet de recevoir les amis peintres, de recevoir des politiques comme Clémenceau, son soutien fidèle à la fin de sa vie. Et avec Alice, il tient ses carnets dont certaines recettes ont été publiées il y a quelques années. Nous avons ici, on ne le voit pas très bien, mais des recettes de girolles. Donc, intérêt, là aussi, pour le végétal. Préparations nombreuses, menus qu'il s'agit de faire varier, ne jamais servir deux fois la même chose à ses invités. Bref, la peinture est aussi une forme de cuisine et le jardin, certainement, outre les nymphéas, abritait un joli potager. On continue cette traversée mi-sociale, mi-picturale, mi-littéraire de ce 19e siècle et des moments de gourmandise ou de sensualité. J'ai parlé de l'intrication des deux chez Zola, mais nous allons avoir avec Bel-Ami de Maupassant, un de ses rares romans, un mélange encore plus indistinct et on pourrait dire peut-être plus appuyé, plus souligné de la sensualité et de la nourriture. Il s'agit de la description, et je n'en donnerai que quelques fragments, d'un repas dans un salon particulier du Café Riche, mais cela pourrait se passer aussi bien chez La Pérouse ou dans un de ces lieux où des petits cabinets permettaient à des messieurs d'un âge certain de se retirer avec des dames d'un âge sensiblement plus juvénile. On le fit monter au second étage et on l'introduisit dans un petit salon de restaurant, tendu de rouge et ouvrant sur le boulevard son unique fenêtre. Une table carrée de quatre couverts étalait sa nappe blanche, si luisante qu'elle semblait vernie. Et les verres, l'argenterie, le réchaud brillaient gaiement sous la flamme de 12 bougies portées par 2 hauts candélabres. On ouvrit la porte et les deux jeunes femmes parurent, suivies d'un maître d'hôtel, voilées, cachées, discrètes, avec cette allure de mystère charmant qu'elles prennent en ces endroits où les voisinages et les rencontres sont suspects. Je saute quelques paragraphes. Les huîtres d'Ostende furent apportées, mignonnes et grasses, semblables à de petites oreilles enfermées en des coquilles et fondant entre le palais et la langue ainsi que des bonbons salés. Puis après le potage, on servit une truite, rose comme, comme de la chair de jeune fille. Et les convives commencèrent à causer. Et comme la première entrée n'arrivait pas, ils buvaient de temps en temps une gorgée de champagne en grignotant des croûtes arrachées sur le dos des petits pains ronds. Et la pensée de l'amour, lente et envahissante, entrait en eux, enivrait peu à peu leur âme comme le vin clair, tombait goutte à goutte dans leur gorge, échauffait leur sang et troublait leur esprit. On apporta des côtelettes d'agneau, tendres, légères, couchées sur un lit épais et menu de pointes d'asperges. « Bigre, la bonne chose !» s'écria Forestier. Et il mangeait avec lenteur, savourant la viande fine et le légume onctueux comme une crème. Duroy reprit, « Moi, quand j'aime une femme, tout disparaît du monde autour d'elle. » Il disait cela avec conviction, s'exaltant à la pensée de cette jouissance de table qu'il goûtait. Et voici le Café Riche. On peut trouver le travail de la métaphore et le glissement de l'alimentaire ou sexuel un peu appuyé, mais on peut en même temps se dire qu'avec Maupassant, comme avec Zola, la nourriture nous arrive vraiment dans son détail et nous donne une idée pour la première fois très précise de ce qu'on mangeait, de ce qui se mangeait. Et voici, on pourrait l'imaginer, nos personnages sortant du Café Riche, après avoir achevé leur menu, les desserts et la suite. Mais d'autres restaurants, s'ils sont fréquentés, sont plus modestes, plus humbles. On a parfois l'impression que la boisson y tient davantage de place que les mets. Mais la pratique du restaurant, c'est certain, se répand pour les dimanches, se répand pour les sorties en bord de Marne. Et il y a ces guinguettes où l'on boit du guinguet, c'est-à-dire au fond une sorte de piquette, mais qui touche désormais à peu près tous les milieux sociaux, en tout cas dans les villes et les faubourgs. Il faut dire que les pratiques de nourriture régionale confinée cèdent peu à peu le pas avec les grandes expositions, les expositions universelles qui se tiennent à Paris, celle de 1889 avec le surgissement de la Tour Eiffel ou celle de 1900, qui véritablement non seulement font voir les merveilles et les techniques et l'art et les décorations et les architectures du monde entier, mais permettent pour la première fois de goûter des spécialités venues de très loin, des épices nouvelles, des fruits, des légumes, des viandes à peu près inconnues jusqu'alors. Il y a dans l'exposition universelle de 1900 de nombreux restaurants, et c'est aussi certaines cuisines typiques, la cuisine alsacienne ayant une identité très forte à cette époque, et l'ayant toujours aujourd'hui, qu'on commence à connaître et découvrir à un moment où les restaurants de ce genre n'existent pas véritablement à Paris. C'est donc une fête que de tester à deux pas de la Tour Eiffel, entre deux attractions, ce repas à l'alsacienne. 1900 se marque aussi par un des banquets les plus fastueux. Il y a une grande tradition de banquets républicains dans la fin du XIXe siècle. C'est un geste politique très important. Mais il va y avoir un banquet exceptionnel, le banquet réunissant à l'initiative du président Émile Loubet tous les maires de France. Et donc, c'est un banquet absolument gigantesque. Si mes souvenirs sont bons, ce sont 28 000 convives qui s'y trouvent accueillis. Et donc voici le menu qui est modeste, on voit que les menus se rapprochent peu à peu, même pour les jours de fête et les cérémonies, se rapprochent peu à peu des nôtres, que le service à la russe, c'est-à-dire le service successif, s'est définitivement imposé contre le service à la française où les plats étaient présentés simultanément sur la table. C'est assez curieux de voir qu'un grand banquet républicain des maires de France obéit strictement au service à la russe. Hors d'œuvre, darnes de saumon glacé parisienne, filets de bœuf en belle vue, pain de canton de Rouen, poularde de Bresse rôtie, ballotine de faisan Saint-Hubert, salade potel, glace succès, condé, dessert, vin et un certain nombre de vins, le tout entrecoupé de danses de jadis et de naguère. Un menu à nouveau extrêmement carné, et une place relativement réduite des produits de la mer. Je vous ai annoncé Jaurès, il faut bien parler de Jaurès. En proposant un titre, je trouvais qu'autant de Jaurès et de Proust, c'était bien, puis ça donnait la petite dimension sociale à laquelle je suis attaché. Mais Jaurès ne s'est pas signalé par des talents culinaires particuliers, n'a pas inventé de recettes. Il s'est intéressé beaucoup à la viticulture, il y a quelques articles sur l'agriculture. Il a été convié lui aussi à un grand banquet populaire, et donc Jaurès, homme du terroir, n'est bien sûr pas insensible à tout cela, et surtout, hélas, avec ou sans Jacques Brel, c'est au Café du Croissant que Jaurès a été assassiné à la veille d'un autre grand moment, d'un autre terrible moment de transformation, non seulement de l'alimentation, mais du monde, la Première Guerre mondiale. Voilà donc le titre de Jaurès à figurer dans cette conférence. Alors, la Première Guerre mondiale, vous le savez, saisit la France dans une impréparation totale. La logistique n'est absolument pas au point. L'idée de base des généraux est que la guerre ne va durer que quelques mois et qu'il n'y a pas de raison de changer les uniformes. Les premiers soldats se feront massacrer aussi parce qu'ils sont trop voyants, mais ces malheureux doivent porter quantité de nourriture sur leur dos, nourriture de conserve, mais surtout nourriture fraîche, qui les alourdissent encore. Et ce n'est que petit à petit, quand la guerre s'enlise, quand elle va s'établir dans les tranchées, quand on commence à comprendre qu'on est parti pour le temps long, qu'une véritable logistique va se mettre en place, métamorphosant très profondément la manière de s'alimenter, non seulement des troupes, mais de l'ensemble du pays. Et donc, j'ai lu avec grand intérêt ce livre de Silvano Cervanti, « La cuisine des tranchées », qui parle en fait plus largement et plus généralement de l'alimentation, surtout en France, pendant la Première Guerre mondiale, en première ligne, à l'arrière et à Paris. Au début, on revient aux fondamentaux. Et vous voyez la présence ici écrasante du pain. Le pain de guerre qui va bientôt être proposé est entre le biscuit sec, la galette et le pain. C'est un pain extrêmement dur, assez plat, préparé quasi sans levain. La farine est souvent mêlée à d'autres choses que du blé. Et ce pain ne peut pas se manger seul. On s'y casserait les dents. C'est donc un pain qu'il faut absolument tremper, tremper si possible dans du chaud, à défaut dans du froid, dans de l'eau, ou mieux, dans de l'eau de vie, dans de la soupe ou dans du vin. Les difficultés logistiques vont conduire assez rapidement à établir une ration quotidienne, pour tenir compte du froid, des conditions éprouvantes. Voici ce qu'était la ration de réserve que le soldat devait garder dans son sac pour les jours où il n'y aurait pas de distribution de nourriture. La ration de réserve contient 300 g de biscuits dits pain de guerre, donc ce pain que j'ai évoqué, 300 g de viande en boîte, essentiellement du bœuf, une sorte de corne de bœuf, mais que les soldats appelleront le singe. Ça vous donne l'idée de la qualité de cette viande. 80 g de sucre, ce qui est beaucoup, 36 g de café, 50 g de potage condensé, qui ressemble à des bouillons cubes, et 6,25 centilitres d'eau de vie. Voilà la ration de base. Mais donc bientôt, les cuisines roulantes se mettent en place, on trouve la manière de les amener parfois très dangereusement auprès des tranchées, auprès des soldats, et ces cuisines roulantes, fumantes, vont préparer des plats que l'on mangera vaille que vaille, souvent boueux, souvent envahis de déchets nombreux, surtout souvent déjà tièdes, sinon tout à fait froids, ce qui ne devait pas améliorer leur qualité. Les soldats décrivent la graisse qui remonte et se fige à la surface de ragoûts et de soupes. Voilà comment, pendant longtemps, souvent debout, on va s'alimenter dans les tranchées. Aller remplir sa gamelle, amener la cuisine roulante, c'est évidemment un risque de mort permanent, et pourtant le désir de manger, ou encore plus de boire, pour faire oublier les souffrances des soldats, les conduira à d'innombrables imprudences pour aller trouver tel café ouvert, telle ferme, tel vague restaurant pour se nourrir un peu mieux. Et puis, les cuisines régionales se mélangent, les habitudes des uns et des autres, les paquets reçus par les plus chanceux conduisent les soldats à se transformer eux-mêmes, quelquefois en cuisiniers, à améliorer l'ordinaire comme ils le peuvent. Nous les voyons ici épluchant leurs pommes de terre. Les officiers et parfois les sous-officiers mangent un peu mieux, même si ça ne doit pas être extraordinaire, et s'offrent de temps en temps des menus de fête qui doivent laisser leurs hommes songeurs, moins songeurs peut-être que ceux qui ont la chance de partir en permission, de rentrer dans leur famille, de s'alimenter quelque temps plus normalement. Voici quelques soldats portant de lourds bidons d'eau, une eau d'une qualité généralement si déplorable, parfois puisée au bord des tranchées, dans l'urine, dans des lieux où macèrent des cadavres, des lieux envahis de rats, car les rats sont partout et toute nourriture doit être suspendue sans point de contact avec le sol. Et comme l'eau est médiocre et dangereuse et provoque la dysenterie, le vin est plus important. Le vin prend au fil des années, au fil de la guerre, une place décisive. Très curieusement, l'usage du vin, la généralisation de l'usage du vin se répand pendant la Première Guerre mondiale. Les Bretons et les Normands, qui ne buvaient pour ainsi dire que du cidre ou de la bière, les Alsaciens, qui ne buvaient que de la bière, se mettent au vin un peu de tous côtés. Au début de la guerre, il y a 25 centilitres par homme, bientôt 50 centilitres, puis 75 centilitres par jour, et on ajoute des rations supplémentaires de vin et d'eau de vie juste avant les assauts. On retrouvera la même chose dans la guerre du Vietnam avec des substances chimiques, des drogues, mais là, c'est véritablement ivre que les assauts les plus rudes sont lancés. Et donc, le pinard est véritablement la seconde munition du soldat de la Grande Guerre. Avec ça, on va pouvoir faire un bon tir d'arrosage. Parfois, la buvette, le restaurant, le colis envoyé par la famille, mais surtout une forme de diversification qui va se faire tout au long de la guerre avec une place grandissante accordée aux conserves. Les conserves dont on se méfiait, dont l'état-major surtout se méfiait, deviennent inévitables, nécessaires et appréciées, mais surtout les aliments surgelés, mis au point vers la fin du XIXe siècle par un Français, mais peu utilisé, peu prisé, ces aliments congelés vont peu à peu se répandre en France, malgré les réticences. Bien sûr, la rentrée du permissionnaire, c'est une rentrée de corde d'abondance, on apporte des aliments de sa région, et c'est donc aussi un grand mélange des cuisines qui se fait, et une première uniformisation, exactement parallèle à l'uniformisation linguistique qui a lieu pendant la Grande Guerre, qui marque, plus que n'importe quel autre événement, plus que l'école laïque, la fin des patois. Fin des patois et fin des spécificités régionales, ou en tout cas voyage des spécialités. On goûte des foie gras, on goûte du camembert, et le camembert, qui nous paraît être là dans l'alimentation française depuis toujours, en fait, ne s'est véritablement imposé hors de Normandie qu'avec la Première Guerre mondiale. Et au retour, c'est bien cela qu'on se met à manger. Alors, dans les zones occupées par les Allemands, l'alimentation n'est pas brillante non plus, car les réquisitions sont très très importantes, et donc les privations sont importantes à l'arrière. On rationne même le pain. On l'explique, haut les cœurs et vive la France, nous dit le maire, mais il n'est pas sûr que cela suffise à La Rochelle ou ailleurs. On revient à une tradition pas bien joyeuse de 1870, première boucherie canine créée à Paris. Les chats, cette fois, semblent épargnés, ou peut-être sont-ils mangés plus discrètement sans passer par la case boucherie. Et donc, la conserve qui s'intensifie avec des usines, évidemment, où ne travaillent quasiment que des femmes, donc c'est aussi une des évolutions très fortes, changement d'alimentation et changement de rôle social. Ici, une usine chocolatière. Le chocolat va prendre aussi une place importante, il est facile à manger, il apporte de l'énergie rapidement et il se développe beaucoup à cette époque. Et puis, un Suisse a la bonne idée de proposer pour tout un chacun, une nouvelle cuisine de guerre, alors des recettes adaptées aux privations. C'est une idée qu'on trouvera aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment travailler avec peu, comment cuisiner ces nouveaux aliments qu'on découvre. Et puis une idée qui mérite d'être remise au goût du jour, une idée venue d'un très grand cuisinier, Prosper Montagnier, qui va créer le repas de la poubelle délicieuse. Alors, je vous lis cette description charmante. Quel succulent déjeuner nous avons fait hier. Nous avons mangé des trognons de choux, des orties en branches, des pieds d'artichaut, des fanes de carottes, des becs de poule, des ergots de coque, des pelures d'orange, des écorces de melon, des cosses de petits pois, bref, toutes sortes de détritus et d'épluchures délectables. Imaginez qu'on eût vidé la poubelle pour en composer notre menu, ça s'appelait d'ailleurs le déjeuner de la poubelle délicieuse. Délicieuse en effet, puisque le maître que Montagnier s'était chargé de nous l'accommoder. Vous devinez pourquoi, il s'agissait de démontrer que nous jetons aux ordures des tonnes de substances comestibles et même nourrissantes, nous ferions beaucoup mieux au prix où est le beefsteak de ne pas en laisser notre part aux cochons. L'intention nettement patriotique était donc aussi bonne que le déjeuner. J'ai peur cependant qu'il n'ait prouvé qu'une chose dont à vrai dire personne n'a jamais douté, c'est que M. Montagnier fait supérieurement la cuisine. Ajoutez s'il vous plaît que notre confrère Louis Forest ne fait pas moins bien l'article et que Mademoiselle Valentine Thompson est une hôtesse charmante. Réhabilitons donc les dîners de la poubelle délicieuse pour d'autres raisons que celles qui sévissaient alors. Pour certains, place Vendôme ou ailleurs, pour certains, les choses ne se passaient pas si mal, et pendant la Première Guerre mondiale, même en 18, comme pendant la Seconde, avec beaucoup d'argent, au Ritz ou ailleurs, on arrivait à s'alimenter, à trouver un peu de quiétude, et certains parlaient avec tristesse, nous le verrons dans un instant, de ce confort des planqués, de ce confort du beau monde. Mais il y a quelqu'un qui, s'il est synonyme pour nous de haute cuisine et de grande littérature, de raffinement et de sensibilité, a su, d'une toute autre manière que Zola ou Maupassant, faire du goût et de la nourriture une matière essentielle de son œuvre, de son roman, avec une diversité qu'on méconnaît parfois, et c'est bien sûr à Marcel Proust que je pense, et d'ailleurs le titre l'annonçait. Proust, longtemps mondain, invité dans les plus hautes sphères, né dans une famille où sans doute on s'alimentait bien, a porté très tôt une grande attention à la nourriture. On peut penser à lui en voyant quelques tableaux de Fantin Latour ou à ceux de Vuillard qui souvent a représenté des scènes intimes, des scènes de repas, pas grandioses, pas luxueuses, mais confortables et plaisantes. Et ces cérémonies du thé, ces thés interminables de l'après-midi ou des week-ends, que ceux qui ne l'ont pas lu confondent avec À la recherche du temps perdu, en pensant que Marcel Proust est essentiellement l'auteur d'une histoire de thé et de petite madeleine. J'étais, voici peu de temps, à Trouville, où je me suis arrêté devant la vitrine de ce magasin, la madeleine de Proust, madeleine tiède à déguster. Voilà, peut-être pour certains touristes, ce à quoi se réduit Proust. Et il est vrai que ce passage est un passage décisif, puisque tout Combray, ville et jardin, tout ce qui s'attache à l'enfance du narrateur reviendra à travers une sensation qui est celle du goût et qui sera le premier éveilleur de la réminiscence, de la mémoire, de la résurrection du passé. Ce qui est extrêmement intéressant, toute madeleine mise à part, tout thé ou tilleul mise à part, puisque dans Jean Santeuil il s'agissait de tilleul, ce qui est extrêmement intéressant, c'est l'assomption du sens du goût comme un sens noble. Le mot de goût, d'ailleurs, avec son ambiguïté, un homme de goût, le goût que l'on peut avoir en toute chose, touche chez Proust aussi à la sphère alimentaire. Voici, pour le plaisir, deux cartes postales anciennes du Grand Hôtel de Cabourg, modèle dans La recherche du temps perdu du Grand Hôtel de Balbec, où il y aura une des scènes les plus emblématiques et les plus importantes du roman. Mais pour dire à quel point cette métaphore du goût et de la cuisine est présente et omniprésente chez Proust, cette petite citation d'abord. « Je me laissais enfin aller avec délice au goût que j'avais pour les phrases, comme un cuisinier qui, pour une fois où il n'a pas à faire la cuisine, trouve enfin le temps d'être gourmand. » Association, s'il y avait chez Maupassant cette manière de confondre sexualité et nourriture, chez Proust, c'est du côté de l'écriture que toujours la description alimentaire va partir. Proust, s'il est dans un monde privilégié, a réussi dans son grand roman à embrasser toutes les couches sociales, le monde de la ville, celui de la campagne, celui aussi de toutes les fonctions de service qu'il a pu observer. Et c'est cela aussi que raconte cette scène célèbre du dîner ou du non-dîner au Grand Hôtel de Balbec. Et le soir, il ne dînait pas à l'hôtel où les sources électriques faisant sourdre à flot la lumière dans la grande salle à manger. Celle-ci devenait comme un immense et merveilleux aquarium devant la paroi de verre duquel la population ouvrière de Balbec, les pêcheurs et aussi les familles de petits bourgeois invisible dans l'ombre, s'écrasait au vitrage pour apercevoir, lentement balancée dans des remous d'or, la vie luxueuse de ces gens, aussi extraordinaire pour les pauvres que celle de poissons et de mollusques étranges. Parenthèse, une grande question sociale, de savoir si la paroi de verre protégera toujours le festin des bêtes merveilleuses et si les gens obscurs qui regardent avidement dans la nuit ne viendront pas les cueillir dans leur aquarium et les manger. Fin de la parenthèse. Là, on est presque chez Annie Ernaux. En attendant, peut-être, parmi la foule arrêtée et confondue dans la nuit, y avait-il quelque écrivain, quelque amateur d'ichthyologie humaine, qui, regardant les mâchoires de vieux monstres féminins se refermer sur un morceau de nourriture engloutie, se complaisait à classer ceci par race, par caractères innés, et aussi par ces caractères acquis qui font qu'une vieille dame serbe dont l'appendice buccal est d'un grand poisson de mer, parce que depuis son enfance elle vit dans les eaux douces du faubourg Saint-Germain, mange la salade comme une La Rochefoucauld. Et on retrouvera, dans Le Temps retrouvé, écrit après la Première Guerre mondiale, que Proust, en écrivant du côté de chez Swann et à l'ombre des jeunes filles en fleurs, ne pouvait prévoir, on retrouvera comme un écho tragique de cette scène de l'aquarium, de cette scène du dîner. On est là donc en pleine Première Guerre. À l'heure du dîner, les restaurants étaient pleins, et si, passant dans la rue, je voyais un pauvre permissionnaire, échappé pour 6 jours au risque permanent de la mort et prêt à repartir pour les tranchées, arrêter un instant ses yeux devant les vitrines illuminées, je souffrais comme à l'hôtel de Balbec quand les pêcheurs nous regardaient dîner. Mais je souffrais davantage, parce que je savais que la misère du soldat est plus grande que celle du pauvre, les réunissant toutes, et plus touchante encore parce qu'elle est plus résignée, plus noble, et que c'est d'un hochement de tête philosophe, sans haine, que prêt à repartir pour la guerre, il disait en voyant se bousculer les embusqués retenant leur table, « On ne dirait pas que c'est la guerre, ici. » Et puis, bien sûr, dans l'œuvre, dans cette œuvre parfois comparée à une cathédrale, dans cette architecture d'ensemble d'À la recherche du temps perdu, dont nous voyons ici toutes les éditions originales, un plat va avoir une importance toute particulière, un plat qui devient comme l'une des métaphores privilégiées de l'œuvre, de la littérature, de ce que Proust a voulu accomplir. Et ce plat, c'est le très fameux bœuf en gelée de Françoise, préparé pour Monsieur de Norpois, un diplomate. La mère du narrateur est enjointe par son mari qu'il y ait, pour recevoir Monsieur de Norpois, quelque chose de bon. Et bien sûr, on peut penser, en lisant cette description de Françoise, d'une Françoise composée un peu de toutes les cuisinières et de toutes les servantes que Proust a pu connaître depuis son enfance jusqu'à sa fin, on peut penser à Céleste Albaret, qui a laissé de si beaux et de si précis souvenirs sur Monsieur Proust, comme elle l'appelait, et notamment sur la manière dont, pendant ses dernières années, malade, au bord de la mort, écrivant autant qu'il le pouvait pour tenter de finir l'œuvre, la manière dont il s'alimentait. Bien loin d'ailleurs du bœuf en gelée qu'il ne pouvait plus, qu'il n'aurait plus pu digérer. Depuis la veille, Françoise, heureuse de s'adonner à cet art de la cuisine pour lequel elle avait certainement un don, stimulée d'ailleurs par l'annonce d'un convive nouveau, et sachant qu'elle aurait à composer, selon des méthodes sues d'elle seule, du bœuf à la gelée, vivait dans l'effervescence de la création. Comme elle attachait une importance extrême à la qualité intrinsèque des matériaux qui devaient entrer dans la fabrication de son œuvre, elle allait elle-même aux Halles se faire donner les plus beaux carrés de rumsteak, de jarrets de bœuf, de pieds de veau, comme Michel-Ange, passant 8 mois dans les montagnes de Carrare, à choisir les blocs de marbre les plus parfaits pour le monument de Jules II. Je passe quelques lignes. Le bœuf froid aux carottes fit son apparition, couché par le Michel-Ange de notre cuisine sur d'énormes cristaux de gelée, pareils à des blocs de quartz transparents. « Vous avez un chef de tout premier ordre, madame, » dit Monsieur de Norpois, « et ce n'est pas peu de chose. Moi qui ai eu à l'étranger à tenir un certain train de maison, je sais combien il est souvent difficile de trouver un parfait maître queue. ce sont de véritables agapes auxquelles vous nous aviez conviés là. Et en effet, Françoise, surexcitée par l'ambition de réussir pour un invité de marque un dîner enfin sommé de difficultés dignes d'elle, s'était donné une peine qu'elle ne prenait plus quand nous étions seuls et avait retrouvé sa manière incomparable de Combray. Voilà, reprit Norpois, ce qu'on ne peut obtenir au cabaret, je dis dans les meilleurs, une daube de bœuf où la gelée ne sente pas la colle et où le bœuf est pris parfum des carottes. C'est admirable. Permettez-moi d'y revenir, ajouta-t-il en faisant signe qu'il voulait encore de la gelée. Je serais curieux de juger votre vatel maintenant sur un mets tout différent. Je voudrais par exemple le trouver aux prises avec le bœuf stroganoff. Vous notez le maître que, votre chef, votre vatel, comme une évidence qu'à ce niveau de qualité culinaire, il ne peut s'agir d'une quelconque babette, mais bien d'un homme au fourneau. Puis, la mère du narrateur vient retrouver Françoise à la cuisine. L'ambassadeur, lui dit ma mère, assure que nulle part on ne mange de bœuf froid et de soufflé comme les vôtres. Françoise, avec un air de modestie et de rendre hommage à la vérité, l'accorda, sans être d'ailleurs impressionnée par le titre d'ambassadeur. Mais enfin, lui demanda ma mère, comment expliquez-vous que personne ne fasse la gelée aussi bien que vous, enfin quand vous le voulez ? Je ne sais pas d'où ce que ça devient, répondit Françoise. Ils font cuire trop à la va-vite, répondit-elle en parlant des grands restaurateurs, et puis pas tout ensemble. Il faut que le bœuf, il devienne comme une éponge. Alors il boit tout le jus jusqu'au fond. Nous sentons, je pense que vous sentez aussi, que par-delà l'attention portée par le jeune Proust, puis par le Proust adulte, aux gestes du service, nous sentons ce talent d'observation, mais nous sentons aussi que ce qu'il est en train de décrire, c'est son idéal littéraire, comme lorsqu'il parle des tableaux d'Elstir, de la musique de Vinteuil ou de toute autre métaphore. C'est véritablement l'écriture qui doit, elle aussi, comme une éponge, boire tout le jus jusqu'au fond, agglutiner tout ce qui peut se produire, toutes les métaphores, tous les adjectifs, tous les incidents, toutes les parenthèses, pour en former un véritable tout. Et dans le temps retrouvé, bien longtemps après ce repas servi à Monsieur de Norpois, le bœuf en gelée de Françoise va revenir, et va revenir là explicitement, comme une métaphore de l'écriture et de l'œuvre tout entière, ce qui est probablement un des plus beaux hommages qu'un écrivain ait pu rendre à l'art, quelque peu méconnu en son temps, de la cuisine. Ce sera ma dernière citation. À force de coller les uns aux autres ces papiers que Françoise appelait mes paperolles, donc la même Françoise qui faisait la cuisine, qui préparait le bœuf, s'occupe maintenant, telle céleste, de collationner les manuscrits, de les agglomérer les uns aux autres. À force de coller les uns aux autres ces papiers que Françoise appelait mes paperolles, ils se déchiraient ça et là. Au besoin, Françoise pourrait m'aider à les consolider, de la même façon qu'elle mettait des pièces aux parties usées de ses robes, ou qu'à la fenêtre de la cuisine, en attendant le vitrier comme moi l'imprimeur, elle collait un morceau de journal à la place d'un carreau cassé. D'ailleurs, comme les individualités, humaines ou non, sont dans un livre fait d'impressions nombreuses, qui, prises de bien des jeunes filles, de bien des églises, de bien des sonates, servent à faire une seule sonate, une seule église, une seule jeune fille, ne ferais-je pas mon livre de la façon que Françoise faisait ce bœuf mode, apprécié par Monsieur de Norpois, et dont tant de morceaux de viande ajoutés et choisis enrichissaient la gelée. Nous pouvons nous arrêter sur Proust et cette belle citation. J'espère vous avoir donné envie de revoir quelques tableaux, de vous plonger dans quelques romans. De découvrir ou de redécouvrir à côté des plus grands peintres et des œuvres littéraires les plus réputées, des textes plus humbles. Pardon de vous avoir emmené aussi dans les tranchées ou de vous avoir fait humer à l'heure du repas quelques relents de rats, d'éléphants, de boas. La prochaine fois, le mois prochain, le jeudi 9 novembre, nous parlerons, le titre a légèrement changé, cela s'appellera d'Escoffier à Fernand Point un système culinaire. Escoffier, le grand codificateur de la cuisine française, et puis l'apparition du guide Michelin, les débuts d'une gastronomie itinérante et les premières évolutions de la cuisine. Et en décembre, nous arriverons à une période dont j'ai été, comme vous, le contemporain avec l'aventure de la nouvelle cuisine. Voilà, en attendant, merci et bon appétit.